Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce samedi dans À voix haute, j'ai le plaisir de vous faire découvrir les premières pages d'un roman d'Elisabeth Aurem, Le Ring, paru en 1994 chez Bernard Campiche éditeur et disponible chez le même éditeur en poche. Ce roman a été couronné par 4 prix littéraires en Suisse. En l'espace de quelques minutes, Louise venait de lui annoncer des faits nouveaux pour lui et fort désagréables. La surprise était complète, et pour comble, Gilles avait obtenu un poste dans une faculté américaine. L'Amérique, rien que ça. Il y avait du soleil, et il faisait chaud derrière la vitre sans rideau. Louise retira son foulard. Elle portait au cou un petit pendentif de diamant qu'il reconnut tout de suite. Une colère sourde lui fit battre les tempes. « Qu'est-ce qui te fait sourire ?» Il avait donc souri. Il n'en avait pourtant nulle envie, mais puisqu'elle l'avait vu sourire, tant mieux. Porté par ce sourire, il répondit désinvolte. « C'est amusant que vous partiez, parce que je pars moi aussi. J'allais justement te l'annoncer. Touché. » Le sourcil interrogateur, elle le regardait par en dessous, attendant qu'il continuât. Comme il se taisait, elle demanda « Où ça ?» avec un petit rire hargneux dans la voix. Il fut d'abord tenté de répondre que ce qu'il faisait ne la regardait plus, mais il aurait risqué d'être brutal, de perdre l'avantage. Il improvisa « Taes ». Il ne se rappelait plus exactement comment ils s'étaient rencontrés, Gilles et elle. De fait, ils s'étaient tout de suite bien entendus. Elle lui reprochait d'être froid avec lui, elle voulait qu'il l'invitât plus souvent. Un jour, il les avait aperçus dans un restaurant par hasard. Il ne pouvait pas le voir de l'endroit où ils étaient assis, mais lui les avait bien observés grâce à un effet de miroir. Ils n'avaient pas du tout l'air d'un couple d'amoureux. Cela faisait plutôt déjeuner d'affaires. Elle ne lui avait pas parlé de cette rencontre et il n'avait rien dit non plus. Aujourd'hui, ils partaient bras dessus, bras dessous, pour une nouvelle vie qu'ils n'arrivaient pas à s'imaginer. Ils allaient traverser un océan et lui resterait seul sur le rivage. Cette idée était insupportable et il avait lancé un nom de ville au hasard pour ne pas être celui qu'on abandonne sur la grève. Il venait de tomber dans le vieux piège du dépit amoureux. En attendant Louise, dans ce café de la vieille ville où il s'était donné rendez-vous, Quentin avait lu le journal. Il avait parcouru distraitement les titres, jetant de temps à autre un coup d'œil dehors. Comme Louise n'arrivait pas, il avait commencé à regarder les petites annonces. L'une d'elles s'adressait à un homme entre 30 et 40 ans, célibataire de préférence, ayant fait des études universitaires. La branche n'était pas précisée. Il devait être doué d'une bonne faculté d'adaptation et aimer voyager. La réponse était à envoyer à Taes, ville dont le nom seul était pour lui chargé d'exotisme. Aussi, lorsqu'il se trouva en face de Louise, le cœur aux abois et l'œil rivé à ce pendentif que Gilles avait osé puiser pour elle dans le coffret à bijoux de leur mère, le nom de Taes se présenta immédiatement à son esprit. L'après-midi fut pénible. Ses collègues l'agaçaient. La sonnerie du téléphone lui tapait sur les nerfs. Même le soleil d'avril, dont il s'était réjoui comme tout le monde le matin, l'incommodait. Il prétexta une rage de dents et rentra chez lui. Il dévora une tablette entière de chocolat, ce qu'il regretta immédiatement, et se demanda s'il n'aurait pas mieux fait de rester au bureau. Il ne se passait guère de jours sans que lui revînt à la mémoire ce souvenir atroce et lancinant d'un corps allongé sur le trottoir recouvert d'un imperméable rose. Il venait d'avoir 7 ans. Sa mère l'avait envoyé acheter du lait. « Fais attention de ne pas la casser », lui avait-elle dit. Il était parti tout fier, serrant une grosse pièce dans une main et tenant dans l'autre le filet à provisions avec une bouteille vide. La laiterie n'était pas bien loin, mais comme il devait traverser de rue, c'était tout un voyage. Il était revenu à petits pas, craignant toujours de casser la bouteille. 30 ans plus tard, il se rappelait encore le contact froid du verre sur ses jambes nues à travers les mailles du filet. Devant leur immeuble, il y avait un attroupement autour de quelque chose qu'il ne voyait pas. La police était là. Il avança pour voir, à la fois curieuse et intimidée. Il entendit quelqu'un dire « Mon Dieu, c'est le gosse !» et les gens s'écartaient de lui comme s'il leur avait fait horreur. Une femme gisait sous un imperméable dont la couleur lui plaisait beaucoup. Un joli rose vif que, malheureusement, on ne faisait jamais porter au petit garçon. Sa mère venait de se jeter du 5e étage. La suite était plus confuse dans sa mémoire. Il avait dû tomber car la bouteille de lait s'était cassée. Une voisine l'avait emmené chez elle et lui avait donné des chaussettes propres parce que les siennes étaient pleines de lait et elle lui avait badigeonné le genou de mercurochrome. Plus tard, la tante Cathy était venue le chercher. Gilles était en pension. Ils n'avaient pas vu leur mère couchée sous l'imperméable. Ce jour-là, elle portait au cou le petit trèfle de diamant. Rien n'est éphémère comme l'actualité. La preuve en est que le journal dont les gens s'emparaient hier avec avidité n'intéresse plus personne aujourd'hui. Un nouveau journal à l'encre fraîche le rend caduc et le réduit à la condition inférieure de papier mort. Il sert à envelopper les pommes de terre au marché ou à tapisser le fond des boîtes à ordures. Quentin eut de la peine à se procurer le journal de l'avant-veille. Il dut pour cela fouiller une pile de journaux qu'un voisin avait déposés bien ficelés au pied d'une poubelle. Il retrouva l'annonce qu'il cherchait, la déchira grossièrement de la page et la mit dans sa poche. Il fut un peu étonné par la réponse qu'il reçut. Un certain monsieur Moser lui écrivait de Taès que sa candidature avait été retenue et que lui-même, directeur de la société Parker, serait heureux de l'accueillir comme collaborateur à partir du 1er juin. Tant de facilité déconcertait. Sur les activités de cette société, pas un mot. Aucun détail n'était donné concernant le genre de travail qui lui serait demandé. Il était précisé, c'était le seul élément concret de la lettre, qu'il devrait avancer le prix du billet d'avion, lequel lui serait remboursé sur place au moment de la signature du contrat. Enfin, on le priait de bien vouloir confirmer sa venue dès que possible. Il fallait se rendre à l'évidence, tout cela n'avait pas l'air très sérieux. Et lui non plus n'était pas sérieux. L'idée d'un départ pour Taès avait été jetée au hasard et il avait encore prolongé un peu la plaisanterie en répondant à l'annonce. Il n'avait jamais eu vraiment l'intention d'abandonner tout à coup son travail, ni de s'expatrier, simplement parce que sa maîtresse épousait son frère. Grand bien leur fasse. La lettre de ce Moser venait clore l'affaire. Il fallait la mettre au panier et avec elle le souvenir de cet épisode. Mais ce qu'il avait lancé comme une boutade avait pris corps un peu chaque jour et, en attendant une réponse de Taès, il s'était mis à y croire. Il relut la lettre. Le papier à en tête le rassura un peu. La mention d'un téléx lui parut un signe encourageant. L'absence de toute précision était peut-être dictée par un souci de discrétion. Il essaya de s'imaginer chargé, qui sait, de missions secrètes. Cela ne tenait pas debout, mais il regardait déjà la lettre avec plus d'intérêt. il la posa sur un coin de son bureau. De temps à autre, l'araignée lumineuse d'une ville dérivait lentement sous le flanc de l'appareil, puis disparaissait. D'inexplicables chemins pailletés rayaient les ténèbres et finissaient mystérieusement, comme des fils de la Vierge rompus, soudain livrés au grand vent interstellaire. Puis l'appareil commença à descendre vers Taès, glissant sur une aile, puis sur l'autre, toujours plus lentement, comme si la haut d'invisibles amarres l'avait retenu. Sans cesse, sous l'aile noire de l'avion naissaient des cercles, des triangles, des étoiles, et Quentin se dit que des hommes avaient travaillé à tracer ces figures et que leur œuvre, fruit d'une peine quotidienne, les avait dépassés à leur insu pour aller s'inscrire dans le concert des planètes. De cette mosaïque lumineuse se dégageait l'image d'une autre humanité plus belle, plus unie, désincarnée, admirable. Il ferma les yeux jusqu'au moment où il sentit sous l'appareil le grain dur de la piste. Le charme était rompu. Seules de petites lampes bleuâtres, phosphorescent myosotis, formait encore des lignes droites partant vers l'infini. Puis, ce fut le chaos, l'amoncellement des valises, la cohue, la cacophonie des haut-parleurs. Les gens titubaient, pitoyables sous le poids de leurs bagages, faisaient sans cesse des écarts pour éviter des obstacles comme des fourmis désemparées. Il ne restait plus rien de ce monde harmonieux entreaperçu quelques instants plus tôt. Ce monde où un même souffle passait sur la Voie lactée et les villes humaines. Pour la première nuit, on l'avait logé au grand hôtel. Sa chambre donnait sur un coin de pelouse assez agréable, mais comme elle était au premier étage, il n'y avait pas ce qu'on appelle une vue. Il en éprouva une légère déception parce qu'il s'était imaginé assis ce premier soir à Taès, sur le balcon de sa chambre, tenant à la main un verre de whisky où auraient teinté des glaçons et regardant, plongeant dans l'eau noire comme des banderilles, les reflets des berges éclairées. Or, il n'en fut rien, puisque sa chambre n'avait pas de balcon donnant sur l'eau vire et qu'il n'avait aucune envie de boire du whisky, boisson qu'il n'aimait pas particulièrement. Il avait surtout sommeil. On avait posé sur la table une gazette en anglais. Il en parcourut les titres et faillit s'endormir. Le plus sage était de se coucher, car le décalage horaire allait lui faire perdre 3 heures de sommeil et il devait se présenter à la société Parker assez tôt le lendemain matin.
À voix haute, Meredith Ledez.
L'immeuble où se trouvaient les bureaux de la société était facile à repérer. Aucune autre façade sur le ring, et sans doute dans toute la ville, ne présentait ces couleurs de confiserie glacée, cassis, fraises, pistaches. Les murs du hall étaient presque entièrement recouverts de plaques de marbre gravées de toutes sortes d'inscriptions suivies d'un numéro d'étage. Cela faisait penser à certaines chapelles tapissées d'ex-voto ou à un colombarium. La secrétaire qui accueillit Quentin n'avait pas l'air au courant de son existence. Elle lui dit d'attendre un moment et disparut derrière une porte. Tout près de l'entrée, un homme lisait un journal. Un canard, jugea Quentin d'après les gros titres. Une bague à pierre attirait l'attention sur les doigts épais couverts de poils noirs. Rien dans ce personnage ne trahissait qu'il eût remarqué sa présence. Des objets étaient exposés dans une armoire vitrée. On pouvait y voir un modèle réduit de tracteur, des poupées folkloriques, des napperons brodés de couleurs grisâtres et deux assiettes décorées de petites fleurs peintes à la main, vraisemblablement des échantillons de l'artisanat local. Le tout était passablement poussiéreux. Au-dessus de l'armoire trônait une coupe, trophée de quelques matchs de football. Quentin sursauta presque lorsque la porte s'ouvrit. Ce n'était qu'une femme qui y apportait une tasse de café. Elle avait un visage déplaisant, blanchâtre, rond et plat comme une lune. Elle passa près de lui sans lui prêter la moindre attention et déposa la tasse sur le bureau de l'homme qui grogna derrière son journal. La secrétaire tardait à revenir et Quentin commençait à se demander s'il n'y avait pas un malentendu. Il chercha à se rassurer en se disant qu'on lui avait réservé une chambre au Grand Hôtel, une chambre dont le luxe l'avait même un peu flatté et que c'était la meilleure preuve qu'il était attendu. Elle revint enfin, lui fit parcourir un couloir encombré de cartons et de dossiers posés à même le sol et l'introduit dans un bureau dont l'exiguïté le frappa d'autant plus qu'il avait eu le temps de lire sur la porte « Salle de conférence ». L'homme qui le reçut avait l'air fatigué, malade même. Il avait du mal à finir ses phrases et se passait souvent la main sur les yeux comme quelqu'un qui a mal dormi et que la lumière gêne. Il s'enquit d'abord de la santé de Quentin, lui demanda s'il avait fait bon voyage, si la chambre d'hôtel lui convenait. Il parlait d'une voix hésitante, comme s'il avait de la peine à rassembler ses idées. La venue de Quentin à la société Parker n'avait pas l'air de l'intéresser le moins du monde. Il y eut un silence. Il prit appui sur ses coudes, déplaça le buste en avant et entreprit de joindre les doigts deux à deux avec application, le pouce avec le pouce, l'index avec l'index, et ainsi de suite. Lorsque les auriculaires se trouvèrent réunis, il reprit. Malheureusement, le directeur est justement absent. Il a dû partir pour quelques jours dans le sud du pays. Il m'a chargé de vous dire combien il regrettait de ne pas être là pour vous accueillir. Mais comme il est parti un peu précipitamment, il n'a pas eu le temps de m'informer en quoi consisterait au juste votre travail ici. C'est fâcheux, je sais. Enfin, si j'ai bien compris, ce n'est pas tant pour vous confier une tâche particulière que M. Moser vous a demandé de venir. Nous avons des employés locaux très qualifiés, voyez-vous, et tout à fait compétents. Que pour le soutenir, l'aider d'une manière générale et pour renforcer l'encadrement, comment dire, européen, oui, c'est cela. Renforcer l'encadrement européen de notre maison. Il se frotta encore une fois les yeux en laissant échapper un sourire de soulagement comme si pour lui maintenant le plus dur était passé. Madame Farge va vous montrer votre bureau. N'hésitez pas à lui demander tous les renseignements que vous voudrez en ce qui concerne votre installation ici. Vous pouvez aussi vous adresser à Monsieur Masco, notre assistant local, pour toutes sortes de questions. Dans un suprême effort, il se leva de sa chaise pour lui tendre la main. À ce moment-là seulement, Quentin s'aperçut qu'il empestait l'alcool. Le bureau où le conduisit la secrétaire était bien meublé, mais n'avait pas de fenêtre, ce qui le confirma dans la sale impression qu'il retirait de tout cela. Une gravure accrochée au-dessus du bureau représentait un coucher de soleil sur un lac. En la regardant de plus près, il vit que ce qu'il avait d'abord pris pour des rochers étaient en fait des crocodiles se prélassant au bord de l'eau, qu'il imagina trouble et bourbeuse. Derrière lui, quelque chose roula, puis tomba avec un bruit sec. C'était une pendule qui égrenait des billes de métal à raison d'une par minute. Tout s'était réglé très rapidement. L'adjoint de Moser, dont il n'avait toujours pas appris le nom, avait accepté sa démission sans faire aucune difficulté. Il avait l'esprit ailleurs et n'écoutait pas vraiment ce qu'on lui disait. Apparemment, l'encadrement européen de la maison Parker ne lui tenait pas du tout à cœur et il semblait se soucier fort peu de ce que son chef pourrait en penser. Lorsque Quentin referma pour la dernière fois la porte sur les crocodiles et la pendule, il eut le sentiment de l'avoir échappé belle. La seule personne qui lui avait plu était Masco. Aussi passa-t-il encore dans son bureau pour lui dire au revoir. Tout ce que Masco lui raconta à propos de la société Parker et des deux hommes qui la dirigeaient le conforta dans sa certitude d'avoir bien fait de partir. « Oui, vous avez très bien fait, » lui dit Masco. « Vous avez sans doute d'autres projets à Taès, n'est-ce pas ?» Cette question toute simple embarrassa Quentin qui n'avait aucun projet d'aucune sorte. Il pensait vaguement rentrer en Europe, mais au fond, il n'en avait aucune envie. Alors Masco lui suggéra de passer au consulat. Il avait entendu qu'on y cherchait de toute urgence un nouveau collaborateur pour la section des visas. Ils seront sûrement heureux de pouvoir renforcer l'encadrement européen du personnel local, ajouta-t-il avec un regard amusé. Un petit silence suivit. Il y avait encore autre chose dans le regard de Masco, mais Quentin n'arrivait pas à définir ce que c'était. Il lui dit au revoir un peu froidement. Le grand hôtel n'était pas très loin et il n'avait pas jugé utile de prendre un taxi, mais il faisait si chaud qu'il le regretta bientôt. Arrivé à mi-chemin, il se sentit terriblement las. Le bruit de la circulation sur le ring était assourdissant. Il avait oublié ses lunettes de soleil et il avait l'impression que la lumière lui vrillait les tempes. L'hôtel paraissait reculer toujours comme un mirage. Il finit tout de même par y arriver, soulagé à l'idée qu'il pourrait enfin se coucher. Il avait une migraine épouvantable. Dans l'ascenseur, ce qu'il avait vainement cherché un peu plus tôt lui apparut comme une évidence, c'était le mépris. Qu'est-ce que c'est encore que cet Olybrius ? C'est Rosemond Gould qui parle. Il paraît qu'il aurait dû travailler pour je ne sais quelle société ici, mais qu'il a quitté son travail dès le premier jour. C'est bizarre parce que il était venu à Taès exprès pour ça, pour travailler dans cette boîte, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Il a dû se passer quelque chose pour qu'il abandonne sa place comme ça dès le premier jour. En tout cas, c'est sûrement quelqu'un de pas très stable. Ça ne m'étonnerait pas qu'il quitte bientôt son travail ici aussi. 37 ans, ce n'est plus si jeune pour changer tout le temps de travail, j'ai vu son passeport. Quentin Corval, drôle de prénom. Je n'en ai jamais rencontré des Quentin à part la ville qui s'appelle Saint-Quentin, tiens justement. C'est joli d'ailleurs comme prénom. Il faudra que je l'écrive à ma nièce qui attend un bébé et qui cherche un prénom. Agnès, vous m'avez encore volé mon agrafeuse. On lui a dit que c'était un garçon, mais il y a des erreurs. D'ailleurs, je ne sais pas si moi j'aurais voulu qu'on me dise « Vous attendez une fille, vous attendez un garçon ». Ça fait idiot si une femme vous dit « J'attends Caroline ou Claude-Henri ». Bref, c'est pour le mois prochain, ça va tomber en plein été, la pauvre. Enfin, il fera toujours moins chaud qu'ici. Encore qu'il y ait des étés chez nous où il peut faire drôlement chaud aussi. Claudine, c'est toujours vous qui coupez la climatisation. Remettez-la donc, on étouffe. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis complètement à plat aujourd'hui. J'ai dû manger quelque chose qui n'est pas passé. J'aurais dû me méfier des crevettes hier soir par cette chaleur. C'est ainsi que Paul Gaudin entendit parler de Quentin pour la première fois. Il pensa qu'il faudrait sûrement aider ce Corval à trouver un logement, et aussi qu'il devenait urgent de faire quelque chose pour insonoriser les bureaux. Puis il réfléchit qu'il n'était jamais allé dans aucune ville appelée Saint-Quentin, ou alors il y avait très longtemps de cela, oui, peut-être, avant d'avoir rencontré Jeanne en tout cas, et il avait oublié. Quentin Corval. Le nom lui-même lui évoquait un château médiéval en pierre noire, quelque part en Irlande ou en Écosse, dans un paysage sauvage de roches grises et de tourbières. Un vent froid chargé d'embrun court en sifflant sur l'herbe rase. Mais le rapport ouvert sur son bureau ne lui permit pas d'approfondir cette vision et il fit sortir Quentin Corval de son esprit. Quelques semaines après son arrivée, Quentin était encore loin de connaître Thaès. Ses habitudes naissantes avaient déjà tué sa curiosité du début et il le sentait lui-même, il n'en apprendrait sans doute guère plus sur la ville. C'était une ville immense. Lorsqu'on la regardait depuis le restaurant panoramique L'Himalaya, elle s'étendait à perte de vue. L'horizon était toujours noyé dans une couche de smog plus ou moins épaisse selon la force du vent, et certains jours on avait du mal à distinguer de chez lui le grand hôtel, pourtant distant d'à peine 300 mètres. Sous cette brume, la ville apparaissait sans structure ni limite, comme un immense marécage humain. Ce qu'on appelait le centre-ville, mais qui n'était en réalité qu'un quartier parmi d'autres, s'inscrivait à l'intérieur du ring, large boulevard dessinant sur le plan de la ville un cercle parfait. Une vingtaine d'années auparavant, tous les étrangers résidant à Thaès étaient tenus d'habiter sur le ring et nulle part ailleurs. Avec le nouveau régime, cette règle avait été levée ainsi que bien d'autres, mais curieusement l'usage était resté, et les étrangers y demeuraient encore maintenant, à de rares exceptions près. Ce qui avait été institué comme une contrainte et ressenti comme tel, s'était peu à peu révélé plus commode qu'on ne pensait. La liberté de déplacement n'en était aucunement diminuée, bien au contraire, puisqu'on évitait ainsi pas mal d'embouteillages. D'autre part, le ring avait ceci de particulier qu'il était surélevé de plusieurs mètres par rapport au sol, tel un grand toboggan circulaire. Les immeubles qui le bordaient avaient leur entrée au niveau du ring, mais ce qui semblait être le rez-de-chaussée était en réalité le premier étage. L'illusion était encore renforcée par la présence devant les immeubles de maigres jardins. En fait, la plupart de ces jardinets consistaient, à y bien regarder, en de simples haies d'arbustes en pot alignées derrière les grilles. Cette répartition de la colonie étrangère sur un même boulevard offrait, en particulier pour les diplomates, l'avantage de simplifier les contacts. Dans toute autre capitale, il est difficile d'aller au cours d'une même soirée à une fête nationale, à un ou deux cocktails et encore à un dîner. À Thaès, c'était possible. Les différentes maisons où l'on était invité se trouvant toutes sur le ring, il suffisait de s'arrêter successivement aux endroits voulus. Le retour se faisait tout naturellement en bouclant la boucle, et on se retrouvait fort commodément chez soi, sans avoir eu à errer dans des quartiers inconnus, à déchiffrer dans des lieux mal éclairés des noms de rues écrits en d'étranges caractères, à perdre son chemin sous l'effet de la fatigue, du dépaysement ou de l'alcool. Mais, Dieu soit loué, Quentin n'était pas diplomate, et son poste tout à fait subalterne au consulat lui épargnait la peine de parcourir toutes les nuits ce circuit de 13 kilomètres. C'était Le Ring, un excellent roman d'Elisabeth Orem, paru chez Bernard Campiche, éditeur, en 1994, et toujours disponible chez le même éditeur en poche. Cette émission était, comme toujours, réalisée par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical la première gnossienne d'Éric Satie, interprétée par Jean-Joël Barbier. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain dimanche pour une nouvelle émission à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.